Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Eratom, le balado à écouter sans faute. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 mars, c'est une journée automnale, même si c'est le printemps, mais nous, en tout cas, on est vraiment contents de vous retrouver. Ça va, Irénée?
Oui, bonjour, ça va bien, merci.
Bon, alors, on va démarrer tout de suite. Pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Je voulais faire un retour sur les dossiers des inconduites sexuelles dans l'armée canadienne. J'ai eu grand plaisir d'écouter vendredi après-midi sur Radio-Canada une interview d'une jeune femme qui s'appelle Stéphanie Raymond. C'est une ancienne caporale-chef de l'armée canadienne qui lutte depuis 10 ans pour que son agresseur sexuel plaide coupable. Et grande victoire, la semaine dernière, cet homme-là a plaidé coupable. Donc c'est une grande victoire pour elle. Et ce que je voulais vraiment saluer, en fait, c'était son courage et sa résilience, parce qu'elle n'a pas lâché, ça a été sa mission de vie, ça l'est toujours, elle veut maintenant continuer à lutter pour que ces agressions sexuelles soient reconnues, soient stoppées et reconnues au sein de l'armée canadienne. Et c'était une interview vraiment intéressante, donc un grand bravo à Stéphanie Raymond.
Oui, donc ça démontre encore plus qu'il y a une culture des conduites sexuelles dans l'armée canadienne.
Clairement.
Je reviens la semaine dernière aussi, l'ancien chef de cabinet de Monsieur Harper, qui a été premier ministre, a comparu cette semaine devant le comité de la condition féminine à la Chambre des communes, et il a déclaré que avant que M. Harper nomme Jonathan Vance comme chef d'état-major, il y avait une rumeur à Ottawa à l'effet que il y avait des squelettes dans le placard de M. Vance. Donc la rumeur c'était que il aurait commis des inconduits sexuels finalement.
Comme quoi les comment on dit comme quoi les squelettes finissent toujours par ressortir.
Ouais, donc une fois de plus, je pense que ça prend une enquête publique pour faire la lumière sur toutes les inconduites sexuelles de l'armée canadienne.
Et pas seulement dans l'armée canadienne. Ceci étant dit, maintenant revenons au sujet du jour. Tu voulais nous parler de nouveau de Denis Coderre. Est-ce que tu penses qu'il ira se présenter, qu'il va se présenter aux prochaines élections?
Oui, il va se présenter, c'est certain, à la mairie de Montréal. Les élections auront lieu en novembre. Et il est partout, là. Moi, je pense que il fait ce que j'appelle l'hypercommunication. Il est dans tous les médias. Donc, il est en campagne. Et ce soir, il saura à tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Selon moi, c'est une excellente plateforme pour tout politicien qui veut se faire connaître, mais M. Coderre est connu partout. Alors, pourquoi il est en campagne? Parce qu'il veut, il veut un match revanche avec Madame Plante.
On en parlait la semaine dernière.
Exactement. Et dans les sondages aujourd'hui, M. Coderre aurait 40% et Madame Plante 24%. Alors, les journalistes ont posé une question à Madame Plante pour savoir ce qu'elle pensait du retour
Monsieur Coderre.
de M. Coderre dans la politique municipale. Et je tiens à la citer. Donc j'ouvre les guillemets. D'abord, on va attendre que le candidat en question, qui nous fait un striptease depuis quelques mois, finisse par le dire. Je referme les guillemets. Alors, je reviens sur Tout le monde en parle, qui est une plateforme, une fois de plus, pour tout politicien en campagne électorale. Souvenons-nous de Jack Layton, le chef du parti du NPD, donc au Nouveau Parti démocrate. Nouveau Parti démocratique, pardon. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors, le sympathique Jack Layton a passé à Tout le monde en parle en 2011, pendant la campagne électorale. Avant la campagne électorale, le Bloc québécois. Ça, c'était les belles années du Bloc québécois. Les sondages prédisaient que le Bloc québécois allait recueillir 38%, le Parti conservateur 23% et le NPD 20%. Après le passage du sympathique, charmant Layton, qui était entré à tout le monde à part avec une canne. Donc, très sympathique cet homme-là. À la fin de la campagne, donc, son parti au Québec a recueilli 43% et le Bloc québécois 24%. Et donc, c'était une victoire convaincante du NPD parce que pour la première fois dans l'histoire du Canada, son parti a formé l'opposition officielle et M. Duceppe a été battu dans son propre comté. Donc, une défaite humiliante. Alors, ce que je veux dire, c'est que le plan de communication de M. Coderre fonctionne bien, il est partout, tout le monde parle de lui, il sera tout le monde en parle, et je pense qu'il a une bonne chance de battre Madame Plante. Mais une affaire à suivre.
Alors justement, en parlant d'élections, on va revenir aussi sur un des sujets de la semaine dernière, concernant Monsieur Trudeau et les élections, fédérales. Il a eu une belle semaine.
Oui, Monsieur Trudeau a eu une belle semaine politique, disons. Et vous savez, en politique, on dit souvent qu'une semaine en politique est une éternité. Et je pense que Monsieur Trudeau, cette semaine, était au paradis, la semaine dernière.
À suivre
Oui.
pour les prochaines.
Oui. Alors, il y a eu une élection la semaine dernière à Terre-Neuve. Et je pense que les résultats de cette élection ont dû réjouir M. Trudeau et ses stratèges. Vous savez qu'il nous prépare une élection ce printemps. Alors, le premier ministre de cette province, Andrew Fury, a gagné un gouvernement majoritaire. Alors, avant, il était à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et je tiens à souligner ça, la campagne électorale a duré 10 semaines.
Ce qui est
Ah, c'est très
peu,
long.
très long.
Ah oui, c'est très long. Généralement, une campagne électorale au Québec, ça dure, et au Canada, ça dure un mois et une semaine.
Qu'est-ce qui a fait que ça a duré aussi longtemps? Est-ce que c'est la pandémie
Oui, c'est la pandémie.
qui a compliqué un peu?
Et exactement. Et le directeur général des élections à Terre-Neuve a dû reporter les élections à quelques reprises. Je souligne aussi un élément qui est important, c'est que les deux chefs de l'opposition ont été battus dans leur propre comté. Donc, c'est une victoire significative. Pourquoi M. Trudeau doit être heureux et ses stratèges quand ils observent ça? C'est que on peut tenir une élection en pandémie. Et l'automne dernier, en Colombie-Britannique, le premier ministre John Horgan, qui est à la tête du nouveau parti démocratique, était à la tête d'un gouvernement minoritaire et il a gagné une majorité. Un autre cas d'un gouvernement minoritaire qui a gagné une majorité, c'était au Nouveau-Brunswick l'année dernière aussi. Donc le premier ministre Blaine Hicks a déclenché une élection, il était minoritaire et il a gagné une majorité. Alors, comme dirait Bernard de Rome, si la tendance se maintient, M. Trudeau pourrait gagner son pari de former un gouvernement majoritaire.
Selon toi, qu'est-ce qui explique cette tendance-là?
Je pense que c'est, en tout cas, la faiblesse des partis d'opposition. Là, les premiers ministres qui dirigent un gouvernement minoritaire, ils veulent prendre de court les leaders de l'opposition. Parce que durant une crise, durant la pandémie, les premiers ministres occupent, on le dit souvent, toute la glace médiatique. Et donc, Une autre explication, c'est que en temps de crise, les électeurs veulent garder un gouvernement en place et lui donnent une majorité parce que avec le leadership en place, ils savent à quoi s'en tenir.
Oui, ils ont besoin d'une forme de stabilité, en fait,
Exactement.
pour
Donc,
gérer en plus l'après-pandémie.
oui, la pré-pandémie et la relance économique. Et la pandémie fait tellement l'affaire de Trudeau parce que, comme il est partout dans les médias et on voit pas les autres chefs, Monsieur Trudeau est un politicien d'image. Donc, c'est une vedette en lui, là. Donc, la politique avec lui, c'est, je dirais, c'est un show business.
Politique.
Il a reçu plusieurs critiques il y a 2 ans, quand il y a eu quelques ministres qui ont démissionné. Les médias nous ont appris que M. Trudeau n'aimait pas gérer la poutine interne. Lui, il se voit, ou il se voyait à l'époque, comme ambassadeur du Canada. Donc, l'image du Canada est importante. Aller à l'ONU, parler aux autres pays, rencontrer Obama, Macron aussi, donc deux jeunes politiciens. Donc, c'était un politicien d'image. Et je pense que il doit remercier la pandémie si jamais il gagne son pari d'avoir une majorité ce printemps.
Excellent. Veux-tu rajouter d'autres points par rapport à ça?
Non, mais j'allais oublier, Monsieur Trudeau a aussi eu une autre bonne nouvelle, c'est que la Cour suprême a sorti un jugement qui dit que la taxe sur le carbone est constitutionnelle. Donc, ce qui était la position du gouvernement fédéral. Et dans cette cause-là, les provinces donc, qui produisent le pétrole, notamment
Alberta.
l'Alberta, étaient ils contestaient la constitutionnalité de la
De cette
taxe sur le
taxe.
carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que M. Trudeau a oublié ou ne prend plus en question, ne prend plus le mot m'échappe là, mais c'est que il sait qu'il ne gagnera pas de siège en Alberta ni en Colombie-Britannique. Ce qui est dommage pour notre pays parce que notre pays en sort divisé. Alors lui, il mise surtout sur le Québec et l'Ontario. Et probablement aussi sur la
Colombie.
Colombie-Britannique. Et pragmatique aussi qu'il est, et sûrement ses conseillers, il ne veut plus séduire l'Alberta ni la Saskatchewan parce qu'il sait que il perdra de toute façon.
Excellent, vraiment intéressant.
Parfait. Alors, Eratom fera relâche la semaine prochaine parce que c'est Pâques. Je pense que nous, on n'est pas très laïcs.
Au Québec, en tout cas.
À l'ère de la laïcité, mais on va prendre une petite pause.
Ben oui, ça fait du bien.
Ouais, on va revenir dans 2 semaines.
Donc, on vous souhaite une belle semaine.
Politique. Mais avant de conclure, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura un événement la semaine prochaine. Et alors, on pourrait faire une émission spéciale, une balado spéciale.
Excellent.
Alors, bonne semaine.
Merci à tous, au revoir.
Au revoir.